Alors ce soir, et après Pâques aussi, nous allons avoir trois leçons sur la sexualité et la vie affective avec différentes approches théoriques pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fragilise les liens de couple aujourd'hui, à notre époque, et aussi les liens d'engagement dans le célibat consacré. Et donc aujourd'hui, on va parler de sexualité et troubles de l'attachement. Alors, quand on parle de sexualité à partir des théories psychanalytiques, on ne parle pas simplement de relations sexuelles ou de génitalité. Hein, pour les psychanalystes, la sexualité, c'est tout le rapport au plaisir dans toutes nos relations au monde et nos relations humaines en général. Freud pensait que le moteur de vie de l'être humain, le moteur de désir, l'éros, la pulsion de vie, était une force, la libido, qui cherche le plaisir et l'évitement du déplaisir. Il avait identifié aussi une autre force, qu'il a appelée la pulsion de mort, Thanatos, qui existe en nous aussi et qui peut nous pousser à nous détruire ou à détruire les autres. C'est aussi une force, cette pulsion de mort, qui tente à annuler le désir. Quand le désir est source de souffrance, comme par exemple dans les toxicomanies ou l'anorexie. Et certains troubles sexuels que nous allons voir justement. Alors, pulsion de mort n'est pas synonyme d'agressivité. L'agressivité est une force de vie. On a besoin de cette force d'agressivité pour se battre pour réussir un examen, se battre pour progresser dans le sport, etc. Donc, les pulsions érotiques et agressives ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi, mais elles imposent un travail psychique et relationnel, particulièrement dense à l'adolescence d'ailleurs, pour pouvoir se mettre au service de la vie. Alors, en ce qui concerne justement l'adolescence, Philippe Van Merbeek, dans un livre qui s'appelle « Ainsi soit-il », distingue trois temps de l'adolescence qui vont être en résonance avec ce qu'on va dire tout à l'heure de la sexualité narcissique. Le premier temps, c'est le temps au moment de la puberté, un temps pour ressentir les pulsions qui partent du corps, de nouveaux désirs pulsionnels qui font éruption dans ce corps qui se transforme. Et donc c'est un temps de pulsions, de sensations. Puis le deuxième temps, c'est un temps pour désirer, qui implique l'imaginaire, et où l'adolescent essaye de mettre en rêve ce qu'il ressent comme désir au niveau du corps, en image. Le troisième temps, ce sera le temps pour conclure, qui normalement permet l'engagement dans la vie adulte. Mais il y a un immense travail intérieur et un travail relationnel que l'adolescent doit faire avant ce temps pour conclure et avant de pouvoir s'engager. Alors pour les psychanalystes, le rôle des interdits parentaux et sociaux est fondamental pour que ce travail intérieur et relationnel puisse se faire. C'est ces interdits qui mettent un arrêt aux pulsions et qui vont obliger l'adolescent à se poser des questions sur quel est le sens de ces interdits, quelles sont les valeurs qui sont derrière, et qui vont aussi l'obliger à un travail intérieur et relationnel pour renoncer à la satisfaction des pulsions et travailler ce désir au niveau imaginaire et au niveau du sens, etc. Donc c'est l'intégration de certaines valeurs qui va transformer le désir et qui va permettre ce troisième temps des engagements adultes où le rapport à la réalité va permettre que chaque jour on essaye de mettre ses désirs dans le quotidien, mais où il y a aussi toute cette acceptation de ce que la réalité ne permet pas de l'absolu du désir tel qu'on peut le voir à l'adolescence. Alors on a vu que le rêve de Freud, c'était d'amener l'être humain au-delà des angoisses et des désirs édipiens, donc qui sont cette dernière phase du développement de l'enfant et de l'adolescent. Mais ce rêve ne s'est pas réalisé, hein, alors qu'au temps de Freud, il y avait énormément de névroses obsessionnelles, d'hystérie, etc. Les pathologies principales, c'était quand même les névroses. On a assisté à une recrudescence ces dernières années de pathologies beaucoup plus archaïques, qu'on appelle les troubles narcissiques, les dépressions, etc., et qui sont en résonance avec des moments beaucoup plus précoces dans le développement. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. En tout cas, les interdits et les valeurs ne suffisent pas pour pacifier les pulsions. Et là, on va s'intéresser à un autre psychanalyste anglais, Bowlby, qui est le premier à avoir parlé d'attachement et qui défendait l'idée qu'il n'y avait pas que Eros et Thanatos comme pulsion, qu'il y avait une pulsion beaucoup plus primordiale chez l'enfant, qui était la pulsion d'attachement. On va essayer de partir de l'enfant pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette pulsion d'attachement et qu'est-ce que c'est les troubles de l'attachement qui peuvent se passer lorsque cette pulsion de l'attachement ne trouve pas à se construire d'une façon positive. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la manière dont la théorie sur les troubles de l'attachement peut éclairer la compréhension des pathologies sexuelles qu'on voit aujourd'hui, qui sont très fréquentes, qui sont les pathologies narcissiques de la sexualité. Et donc, c'est l'expérience clinique de ces deux troubles, les troubles de l'attachement et la pathologie sexuelle narcissique, qui me permet aujourd'hui d'oser faire le lien et d'essayer de le faire sur un plan théorique, avec un intérêt qui est essentiellement clinique, parce qu'il s'agit, pour accompagner ces patients, de construire des liens d'attachement sécurs qu'ils n'ont peut-être pas eu ou qu'ils ont détruits par la manière dont ils ont vécu la sexualité à l'adolescence, par exemple. Et donc, pour toute personne, pour les parents, pour les psychothérapeutes, pour les accompagnateurs spirituels, avoir en tête cette question de qu'est-ce que c'est un attachement sécure et qu'est-ce qu'on peut construire comme type de relation pour aider les personnes à trouver cette possibilité de s'attacher, c'est-à-dire d'avoir confiance en l'autre, je pense que l'enjeu est de taille. Surtout que dans la vie religieuse, il y a souvent un idéal de non-attachement. Alors, ça ne recouvre pas la même signification, on pourra voir ça dans les questions et les débats, mais n'empêche qu'au niveau psychologique, quand on parle du détachement, de ne pas s'attacher, etc., ça peut produire au niveau psychologique une manière d'être en relation qui peut aggraver les pulsions plutôt que de les pacifier. Donc les enjeux ne sont pas simplement au niveau des couples, mais aussi au niveau de l'engagement dans la vie religieuse. C'est Cyrulnik, je crois, qui disait que seuls les liens d'attachement sécures permettent la pacification des pulsions. Donc, pas que les interdits et les valeurs. Alors, je vais me référer au docteur Allais, à une journée de formation qu'elle avait donnée à l'hôpital La Petite Maison. Donc, docteur Allais est responsable, était, je ne sais pas si elle l'est encore, d'un centre qui s'occupe de problèmes d'adoption. Donc, les cliniciens qui s'occupent des familles d'accueil ou des familles qui ont adopté se sont beaucoup intéressés à ces troubles de l'attachement, puisque les enfants qui ont été abandonnés, qui n'ont pas eu des attachements sécures dans la toute petite enfance, développent des troubles de l'attachement et ça rend évidemment les adoptions compliquées. Alors, pour différencier qu'est-ce que c'est un lien d'attachement sécure d'un lien d'amour, de la libido, posez-vous la question, s'il m'arrive une catastrophe, un accident de voiture, ou si on me dit que j'ai une maladie grave, à qui je vais le dire en premier? À qui je vais téléphoner? Est-ce que j'ai quelqu'un à qui je peux en parler? J'espère que vous avez tous quelqu'un à qui vous pensez, que vous pouvez appeler si vous arrive quelque chose de grave. Eh bien, ce lien-là, c'est le lien d'attachement sécure. Par contre, si vous avez une soirée libre ou un week-end libre, avec qui vous avez envie de le passer? Avec qui vous pensez que vous allez passer du bon temps, bien vous amuser, etc. Là, on est du côté de la libido. Alors, peut-être que ce n'est pas les mêmes personnes que les liens d'attachement sécure. Alors, dans un couple, à certains moments de la vie du couple, parfois c'est en couple qu'on trouve et la sécurité et le plaisir de s'amuser un week-end, etc. Mais dans la vie d'un couple, c'est pas toujours uni ça. Il y a des moments où on a un conflit, le lien d'attachement à son conjoint n'est peut-être plus un lien sécure et on aura besoin d'une amie à qui se confier. Si on est en dispute, ben, peut-être qu'effectivement on aura du mal à avoir du plaisir ensemble, etc. Hein? Mais bon, à certains moments, ça peut être la même personne qui occupe les... Voilà, avec qui on peut vivre les deux liens. Alors l'attachement se construit chez le bébé à partir d'un sentiment de sécurité lorsque les besoins physiques et psychiques sont satisfaits. Et nous avons besoin d'être attachés toute la vie. Donc c'est un besoin qui perdure toute la vie. Quand tout se passe bien, dans la relation parent-enfant, le bébé va développer ce qu'on appelle un style d'attachement sécure, qui va influencer toutes ses relations plus tard, son choix de vie, ses choix amoureux, etc. Et il va développer ce qu'on appelle un MIO, voilà, un modèle interne-opérationnel positif. Alors le MIO, ça concerne l'estime de soi, qui va être, quand on est dans un attachement sécure, je suis important pour l'autre, un sentiment de sécurité. Quand on est dans un attachement sécure, on a l'impression que le monde extérieur n'est pas dangereux, qu'on peut quitter la personne avec qui on est attaché sans danger parce qu'on sait qu'on peut revenir. On peut revenir chercher de l'aide. Donc ça donne confiance dans le monde extérieur. Et la relation avec les adultes, eh bien, elle va être aussi positive. Je peux avoir confiance dans mes parents. Je peux avoir confiance, je ne dois pas avoir peur. Donc l'enfant qui a eu la chance de vivre un attachement sécure va développer une confiance en lui, mais aussi dans les autres. On peut appeler ça aussi une base narcissique solide, qui lui permettra de ne pas avoir peur de montrer ses faiblesses et de demander de l'aide. Quand l'enfant n'a pas connu cette sécurité, il développe un type d'attachement insécure, un MIO négatif. Donc l'estime de soi va être faible, il va se dire « bon, je suis différent, je ne vaux pas grand-chose, etc. » je ne suis pas le monde n'est pas forcément bienveillant, n'est pas forcément sécure, se montrer faible peut être dangereux, etc. Et la confiance dans les autres va être abîmée. Alors, les différents styles d'attachement. J'ai déjà parlé de l'attachement sécure. Ce qui est important de rajouter, c'est de dire que pour que l'attachement sécure se construise, il faut que les figures d'attachement, les parents, puissent réagir d'une façon adéquate à toutes les émotions négatives autant que les émotions positives. Alors, on va voir par contre que dans les attachements insécures, les deux premiers vont être plus ou moins normaux, c'est-à-dire qu'on a tous eu des zones plus ou moins insécures. Donc c'est intéressant de voir, tiens, je suis plutôt de ce style-là ou plutôt de l'autre style. Le troisième type d'attachement insécure va être clairement pathologique. Le premier, c'est l'attachement évitant. Là, les figures d'attachement nous ont envoyé comme message, quand nous nous plaignons, quand on était en colère ou qu'on était triste, etc., on va dire, allez, un garçon, ça ne pleure pas, c'est pas grave, ça va passer, sois fort, etc. Donc les émotions négatives doivent être refoulées et l'enfant apprend à utiliser son intelligence. Donc si, voilà, s'il est tombé du toboggan et qu'il pleure et que maman lui a dit « Non, allez, tu es un garçon, tu dois être fort, etc. Et » ben, il va apprendre qu'il ne doit plus aller secouer le toboggan, il va plutôt aller ailleurs, etc. Donc il va utiliser son intelligence pour éviter les situations où il risque d'être en position de faiblesse. Et donc il va retenir qu'il n'est pas aimable quand il est dans l'émotion négative, qu'il doit être vigilant et se protéger. Et qu'il ne peut pas trop compter sur les autres quand il a un problème, qu'il doit se débrouiller seul. Bon. Donc on va avoir des enfants plus anxieux, plus agressifs aussi, qui essayent d'être dominants et qui essayent de cacher leurs faiblesses et qui vont chercher à se mettre en valeur en donnant une image positive d'eux-mêmes, en faisant rire la galerie, etc. Voilà. Parce que là, ils sont valorisés. L'attachement ambivalent anxieux, là c'est l'inverse. La figure d'attachement n'a pas de temps à perdre avec les émotions positives. On est dans une famille de 8 ou 10 enfants, et, ou bien il y a un enfant qui a un handicap. Et voilà. Si on a un gros problème, on peut compter sur maman et sur papa, ils vont nous aider, etc. Mais raconter tout ce qui était chouette à l'école, maman n'a pas le temps, hein, ou papa n'a pas le temps. Hein, donc il faut se plaindre pour qu'on fasse attention à moi. Hein, donc l'enfant, il va retenir ça. Si je veux avoir de l'amour, il faut que je me plaigne. Hein. Il va retenir qu'il doit être conforme au désir de l'autre pour ne pas être abandonné. Et donc, on va avoir des enfants qui vont être plus dépendants, qui vont avoir tendance à privilégier la plainte pour avoir de l'attention, et c'est à qui se plaindra le plus, etc. Puisque celui qui est malade a plus d'amour que celui qui n'est pas malade, etc. Alors, ça existe aussi dans les communautés religieuses, hein, aussi, surtout les communautés de femmes, il y en a qui ont compris que la supérieure s'occupe surtout de celle qui ne va pas bien. Hein, donc si on va bien, ben, on n'a pas de rendez-vous régulier avec la supérieure. Par contre, si on ne va pas bien, on peut aller frapper à son bureau et on aura droit à de l'attention. Hein, donc ça existe dans la vie adulte aussi. Hein. Voilà, ça peut exister dans les couples aussi. Hein, donc ce type de demande, etc. Par contre, dans l'attachement insécure, désorganisé, là on est vraiment dans une pathologie très préoccupante. Les figures d'attachement sont imprévisibles et incohérentes. Ce sont des parents qui sont complètement envahis par leurs propres émotions, leurs propres difficultés. Et la façon dont les figures d'attachement vont réagir aux demandes de l'enfant dépend des émotions de l'adulte. Ça dépend si on tombe sur un bon jour ou sur un mauvais jour. Et donc l'enfant, ben, il va être très angoissé et très perdu, parce que un jour maman va être super gentille, super à l'écoute, etc. quand je lui raconte, et puis le lendemain tout d'un coup elle va se fâcher parce qu'elle n'a pas le temps, etc. Donc il y a quelque chose d'extrêmement déroutant pour l'enfant. Il peut utiliser ni sa connaissance des émotions, ni son intelligence. Il doit fonctionner à l'instinct pour voir est-ce que c'est un bon jour, mauvais jour, sur qui je peux aller, comment je peux me servir de ce que j'ai besoin moi-même, etc. Donc, suivant la gravité du trouble, on peut avoir des problèmes de délinquance, de stress extrême, des troubles du comportement, plus ou moins grave, et en tout cas c'est un enfant qui développe des troubles par rapport à la confiance possible dans les adultes, hein, voilà. Et donc c'est des enfants et des adolescents qui vont avoir du mal à construire des liens fiables, à faire confiance. À l'adolescence, la manière de s'intégrer dans un groupe va être très influencée par le style d'attachement, de même que le choix du groupe d'appartenance. Et à l'âge adulte, le choix d'un partenaire amoureux va aussi être marqué par le style d'attachement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le comportement sexuel à l'adolescence va aussi soit renforcer les attachements sécures, soit au contraire produire des troubles de l'attachement. Alors, pour avant de parler de ce que Nicole Jamais nous dit sur ce sujet-là, je vais vous parler d'une observation clinique tirée du livre qu'on a écrit. Vanessa vient me voir à 18 ans pour des troubles alimentaires et des difficultés d'études. Elle a perdu le contrôle de ses crises de boulimie et elle n'arrive plus à réussir un examen. Il y a une force d'autodestruction en elle qu'elle n'arrive ni à comprendre ni à contrôler. Alors au test intellectuel, elle réussit tout ce que tout le monde rate, les choses les plus difficiles, mais elle rate tout ce que tout le monde réussit, tellement elle est angoissée. Et alors elle comprend qu'en fait, quand elle est face à une évaluation ou une attente de quelque chose de relativement facile, elle a tellement peur d'être bête qu'elle rate. Par contre, quand personne ne réussit, là elle peut utiliser toutes ses capacités intellectuelles qui sont brillantes et elle réussit des choses extraordinaires. Bon. Puis elle me dit à un moment donné, bon, après un temps, Au fond, je me mets moi-même en échec parce que comme ça, je peux au moins contrôler mon échec. Alors après 2 ans de travail, Vanessa guérit, mais je reste inquiète à cause de ses relations amoureuses. Pour éviter de souffrir, elle avait décidé de ne pas s'attacher au garçon avec qui elle sortait. Et elle me disait « Oh, plus tard, j'aimerais vraiment quelqu'un, mais maintenant, je veux seulement m'amuser parce que de toute façon, je vais partir en Erasmus et donc je ne vais quand même pas m'attacher à quelqu'un maintenant. » Et donc, en limitant ses relations amoureuses au plaisir, Vanessa pensait se protéger elle-même de souffrances plus grandes. Alors, au dernier entretien, avant son départ à l'étranger, je lui ai dit « Écoutez, je reste quand même inquiète pour vous parce que en vous empêchant d'aimer, vous construisez des relations au sein desquelles vous êtes évalué comme un objet qui procure plus ou moins bien du plaisir et vous évaluez l'autre de la même façon. » Or, cette peur d'être évaluée, c'est justement ce qui vous a rendu malade. Est-ce que vous êtes certaine que vous arriverez à avoir confiance en quelqu'un plus tard et à tomber amoureuse? Est-ce que vous n'aurez pas de plus en plus peur de l'autre, de plus en plus peur d'aimer? Voilà, je l'ai laissée avec cette question et elle est revenue 5 ans plus tard à cause de mes dernières paroles. En disant, j'ai pas arrêté de penser à ce que vous m'avez dit. J'ai essayé d'aimer un garçon pendant 3 ans. Mais après, j'ai appris qu'il m'avait trompée depuis le début et je ne veux plus vivre ça. Alors je me demande si je ne dois pas simplement décider de me consacrer à mon travail et rester célibataire. Voilà avec quoi elle revient. Alors, pathologie narcissique et troubles de la sexualité, je m'appuie sur le livre de Nicole Jamet, Amour, sexualité, tendresse, la réconciliation, point d'interrogation. Nicole Jamet est une psychanalyste théologienne qui a donné cours au centre Sèvres. Et elle nous dit que quand la sexualité devient narcissique, on ne sait plus prendre en compte le désir de l'autre. On refuse de dépendre d'un autre par peur d'être trahi ou déçu. Et cette peur produit un retournement, on devient celui qui trahit, qui séduit, qui prend le pouvoir. On vient d'une époque avant la psychanalyse où le corps et la sexualité étaient diabolisés. On est passé de cette diabolisation à une idéalisation de la jouissance sexuelle, mais on reste dans le même clivage, le corps et l'âme ne sont toujours pas réconciliés, nous dit toujours Nicole Jamet. Et donc elle réfléchit à cette question à partir de romans qu'elle analyse, donc pour éviter des situations cliniques. Et elle nous montre comment la profondeur de ce trouble narcissique, comment ça peut se manifester dans 3 typologies relationnelles différentes. Tant que cette peur de l'autre existe, elle se retourne en désir de s'approprier l'autre, de l'utiliser, de le faire dépendre de soi, de le réduire à l'état d'objet de jouissance. Dans le premier cas, elle parle de la sexualité sans visage, qui est la forme la plus grave, qui est l'impossible confiance dans l'autre. Il n'y a pas d'attachement possible. Et elle va analyser le roman de Catherine Millet, La vie sexuelle de Catherine M, du côté féminin, et de Houellebecq, Les particules élémentaires, du côté masculin. Et elle nous décrit une forme de sexualité qui veut se libérer de tout lien, mais en essayant de comprendre quelle est la souffrance qui se cache derrière ce désir. Une douloureuse demande de reconnaissance sans confiance possible dans un autre. La sexualité sans visage est une sexualité faite de sensations uniquement, sans émotion amoureuse. Catherine M. se décrit d'une générosité sans limite parce qu'elle cherche uniquement à faire jouir tous les hommes qui le lui demandent, sans éprouver elle-même d'orgasme. La sensation même de plaisir risquerait de la rendre vulnérable, de la rendre dépendante d'un autre, et il faut éviter ça à tout prix. Elle a besoin d'excitation sexuelle pour exister et de sentir le regard et le désir de l'autre. Voilà, c'est la sexualité qu'on trouve dans les dépendances à internet, dans la pornographie, dans la prostitution, etc. Mais ça existe aussi au niveau féminin, pas seulement chez les hommes. Alors, ce qui est important aussi dans ce type de problématiques, c'est qu'on les retrouve autant chez des personnes qui ont des désirs homosexuels que chez des personnes qui ont des désirs hétérosexuels. Jusqu'à il y a 20 ans, on pensait que la sexualité narcissique était le propre des désirs homosexuels. Et c'est quelque chose qui est tout à fait erroné. Hein. Ça existe autant chez les hétéros que chez les homosexuels. Alors, ça peut être aggravé par le célibat consacré. Hein, si on confond, si on se prive d'attachement au niveau affectif, hein, et si on entre dans des dépendances sexuelles de ce type-là, sans justement avoir pu nouer des attachements sécures, on peut être vraiment emporté dans des dépendances pulsionnelles extrêmement problématiques. La sexualité papillonnante, ça, on avance un petit peu dans quelque chose qui commence à se lier un peu plus. Ce n'est plus l'impossible confiance de façon totale, mais l'impossible renoncement à la fusion. Il n'y a toujours pas d'attachement parce qu'il n'y a pas de présence de l'autre dans l'absence. Comme dans la sexualité sans visage, il y a à la base une demande éperdue d'être reconnu par l'autre. Mais ici, les sensations vont se lier à l'émotion. Il y a une recherche d'identité dans le regard de l'autre. Je cherche qui je suis dans le regard de l'autre. Je cherche à attirer le regard. Je regarde si on me regarde. Vous reconnaissez aussi une étape de l'adolescence. Hein, dans le métro, je regarde si on me regarde. Hein, qui me regarde, hein, je regarde si je plais. Voilà. Et donc Nicole Jamet analyse le roman de Camille Lorenz, L'amour est dans ses bras-là. Et elle montre que ce qui a manqué, c'est le visage de la mère qui renvoie à l'enfant une image positive de lui-même. C'est-à-dire que l'enfant doit, quand il regarde sa mère le regarder, doit se voir lui. S'il ne voit que sa mère, avec ses émotions à elle, eh bien, cet attachement sécure ne se construit pas. Et donc, dans les souvenirs de l'enfant qui a ce type de problème adulte, la mère regarde toujours ailleurs. Et il ne se voit pas lui-même dans les yeux de sa mère. Bon, voilà, ça se joue au niveau de la réponse émotionnelle. Hein. Le désir, c'est capturer le regard de l'autre, provoquer son désir dans l'instant, mais sans cesse à recréer comme une drogue, sans avenir possible car il n'y a pas de lien d'attachement et il n'y a pas de présence dans l'absence. L'émotion est recherchée pour elle-même et elle est liée aux sensations. Il y a un besoin de capturer l'autre, de se l'approprier sans le prendre en compte. Il n'y a pas de continuité dans le temps, pas de présence dans l'absence, donc pas de fidélité possible. Et pas de culpabilité par rapport à l'infidélité. L'héroïne dira à son compagnon avec qui elle vit, « Mais je ne t'ai pas trompé. Ce que j'ai fait n'a rien à voir avec toi. » Voilà. Alors, le dernier trouble, qui est le moins grave, qui est même un peu idéalisé dans la littérature, c'est ce qu'elle va, Nicole Jamet va appeler la sexualité totalisante ou le deuil impossible, l'impossible perte. Là, il y a un attachement, mais c'est le besoin d'absolu qui prime. Il y a quelqu'un, il y a un lien à quelqu'un, mais ce quelqu'un prend toute la place dans mon monde intérieur. C'est la passion amoureuse qui vampirise, qui fait éprouver la plénitude, mais aussi l'angoisse mortelle de perdre l'autre. Si je perds l'autre, je meurs. Il n'y a plus de place pour moi à l'intérieur de moi, c'est l'autre qui a pris toute la place. Le plaisir est absolu, mais l'angoisse d'être abandonné l'est tout autant. L'autre est présent sans cesse dans l'absence. J'arrive plus à me concentrer sur autre chose. Il n'y a plus que lui qui compte, qui remplit toute la vie. J'ai juste envie d'être sur une île déserte avec celui que j'aime. L'autre est mon Dieu et je veux être son Dieu. Notre amour est parfait. Il n'y a plus de frontières entre l'autre et moi. S'il meurt, je meurs. On est dépossédé de soi par l'autre dans un trop-plein de présence. Voilà, elle analyse le roman de Anne Ernaux, Passion simple, mais on retrouve cet amour-là chez Roméo et Juliette, l'amour adolescent, qui est aussi l'amour de l'amour, hein, ce besoin de fusion pour conjurer la mort, et puis aussi, on n'a pas peur de la mort du moment qu'on meurt ensemble, donc voilà. L'impossible perte, l'impossible distance, donc, l'impossible avenir du lien, si le renoncement à ces désirs illusions n'est pas accepté. Mais ça peut être aussi le commencement de l'histoire d'un véritable lien, un lien d'amour, de mutualité dont Bernard va nous parler. Ça peut être aussi le commencement d'un travail de sublimation tel qu'on va l'aborder après Pâques, parce que l'idéalisation de quelqu'un est une étape nécessaire pour que ce travail de sublimation puisse se faire. Si on n'idéalise que des idées, il y a quelque chose qui ne va jamais se faire. C'est dans l'idéalisation de quelqu'un que, voilà, que le point de départ de ce travail de sublimation dont on parlera plus tard va pouvoir se faire.
Alors pour ma part, donc, moi je vais poursuivre la lecture de ce livre, La sexualité sans visage, la sexualité papillonnante, la sexualité totalisante, ce sont les chapitres 1, 2, 3, 4, et moi je vais vous lire les chapitres 5 et 6, sur l'amour de mutualité. Donc l'amour de mutualité, qui est... l'amour qui va jusqu'au bout de l'engagement, de la fidélité, qui est un amour sécure, justement. Nicole Jamet en parle en relisant le Cantique des Cantiques. Alors, le Cantique des Cantiques, comme vous savez, c'est un grand poème qui se trouve juste au milieu de la Bible. D'habitude, dans les Bibles catholiques, si vous divisez par deux le nombre de pages, vous tombez à 10 pages près sur le Cantique des Cantiques. C'est peut-être significatif, peut-être que c'est l'épine dorsale du livre. Hein. Alors l'amour de mutualité, c'est un mot que Nicole Jamet propose, ce n'est pas une situation, ce n'est pas un état. Au contraire, c'est un processus, c'est un chemin de découverte, c'est une vie dans le temps, c'est une rencontre entre deux personnes. Et donc, vous voyez que ce que moi je vais dire s'oppose point par point, justement, aux trois types de sexualité qu'on vient de développer, sans visage, papillonnante ou bien totalisante, par certains aspects. En effet, l'amour de mutualité n'exclut pas l'aspect de la sensation, par exemple, l'aspect des émotions, l'aspect de la fusion, etc. Mais il les lie. Il les lie dans un processus. Il les enchaîne. Ce qui est grave, c'est lorsque ces étapes sont déliées. C'est la déliaison qui fait qu'on est dans les troubles de l'attachement ou dans la perversion. Mais lorsque cela s'enchaîne d'une certaine manière, dans une vie avec des étapes qui aussi parfois sont angoissantes, sont désagréables, sont difficiles à passer, bien quand ça se lie, alors ça devient vraiment un amour profond de mutualité. Alors... sur le petit tableau que je vous ai mis là, j'ai fait comme un résumé des versets importants dans cette feuille, des versets importants sur lesquels s'appuie Nicole Jamet pour voir ces 5 étapes. En fait, les exégètes eux-mêmes, ce sont eux qui divisent le poème en 5, le grand chant des Cantiques des Cantiques, en 5 poèmes différents. Donc c'est au niveau littéraire qu'on peut voir ces poèmes différents. Alors, selon la plupart des exégètes, des spécialistes aujourd'hui, ce chant est écrit par une femme. Il commence d'ailleurs par une parole de femme. Il me baise des baisers de sa bouche. Donc ce chant est écrit ou chanté par une femme. L'auteur est une poétesse et c'est de son point de vue que tout est décrit. Donc le moi principal du cantique est un moi féminin et l'autre est un moi masculin, le bien-aimé. De plus, Nicole Jamet note, et c'est important, la parfaite égalité de l'homme et de la femme dans ce cantique. Il n'y a aucun machisme, ni aucun féminisme. Il y a un équilibre dans le cantique. Il y a des seuils. Chaque poème, selon sa lecture à elle, mais je crois que les exégètes sont d'accord, chaque poème est un pas de plus vers un approfondissement de l'amour, avec des seuils qui sont particulièrement caractérisés par certains versets. Et c'est un peu comme le développement de l'enfant. Vous vous souvenez que l'enfant lui-même, hein, il a des seuils. À 8 mois, il a peur d'être séparé. Et puis après, il est collé à sa mère. Et puis après, il est opposé à sa mère. Et puis, il y a la jalousie avec un troisième, etc. Eh bien, c'est un peu des étapes comme celle-là. Il faut surmonter l'angoisse de certaines étapes. Et notamment l'angoisse que l'autre, me rejette, soit une menace pour moi, ou que je ne parvienne pas à le contrôler. Hein. En effet, donc cet amour de mutualité, c'est un chemin où il y a des choses imprévisibles, mais qu'il faut oser affronter. Il ne faut pas évacuer l'imprévisible. L'imprévisible qui est dû aux aléas du désir, et qui est dû aussi au temps qui s'écoule. On n'aime pas à 20 ans comme on aime à 40 ou à 60. Et le temps nous réserve des surprises, bonnes et mauvaises, et les aléas de la vie aussi. Il faut intégrer tout cela. Et parfois on a envie d'accélérer le temps, parce qu'on n'aime pas l'épreuve dans laquelle on se trouve, et d'autres fois on voudrait y rester, parce que ça procure du plaisir, c'est gratifiant. Mais on est toujours dans le présent. Les quatre premières étapes, selon Nicole Jamais, sont vraiment des étapes transitoires, hein, qui peuvent durer un certain temps, mais ce n'est que la cinquième et dernière étape qui s'ouvre vraiment sur un futur. On n'est pas seulement dans le présent, s'ouvre sur un futur parce qu'il y a vraiment là la conclusion d'une alliance. C'est un présent consolidé et mis à l'abri des aléas et des imprévisibilités du désir par un cheminement que je vais essayer de vous expliquer. Qu'est-ce que l'amour ? L'amour, c'est une recherche de bonheur avec l'autre et par l'autre. Il y a donc toujours un aspect narcissique dans l'amour. On veut son bonheur, mais on veut le bonheur de l'autre, on veut un bonheur avec lui, par lui. Cet aspect narcissique est toujours présent, mais il est dépassé dans la mesure où on cherche en même temps le bonheur de l'autre, et où parfois on est prêt à faire des sacrifices pour que l'autre soit heureux. Et ce sacrifice n'est pas au détriment de l'amour, il est au détriment du plaisir peut-être, mais pas de l'amour profond. Un signe que l'intégration est réussie, c'est lorsqu'on ne se pose plus la question de savoir qui donne et qui reçoit, comment le partage se fait, comment l'échange se fait, lorsqu'il y a un équilibre entre ce qui est demandé narcissiquement et ce qui est donné gratuitement à l'autre. L'équilibre prouve l'authenticité de l'amour. Souvenez-vous de la balance de justice de Nagy. Eh bien, c'est un peu cela. Lorsque c'est équilibré, eh bien, on est dans l'amour et le bonheur. Alors, bien sûr, on ne donne pas toujours au même niveau. Hein. Le partage peut être différent. L'un donne plus au niveau des émotions, l'autre donne plus au niveau de l'intelligence ou du corps, etc. Et puis, ça peut varier, évidemment, de moment en moment. Donc ça, je crois que l'aspect narcissique dans l'amour ne doit pas être évacué, mais ça ne fait pas suspecter du tout l'amour, à condition que ça entre dans une réciprocité. À cela s'ajoute un second paradoxe, c'est que l'amour ne réussit à trouver le bonheur que s'il partage, mais on ne peut pas partager que du plaisir. On partage aussi de la souffrance. Mais affronter la souffrance ensemble, c'est aussi un partage, et c'est aussi un partage d'amour. Le plaisir est indispensable au bonheur, mais la souffrance, elle aussi, est inhérente à la vie. Il n'y a pas moyen de l'éviter. Et donc, elle doit être intégrée dans cet amour. Alors, non seulement la souffrance qui est inhérente à la vie et que le couple affronte ensemble, par exemple, une difficulté de vivre, financière ou autre, là, on affronte ensemble, mais aussi et surtout la souffrance qui est inhérente à la relation, à l'altérité qui est dans la relation. Une vraie relation passe toujours par des moments de souffrance. Pourquoi ? On va le voir. Et le bonheur, c'est lorsque ce processus est finalement vainqueur dans un équilibrage entre plaisir et souffrance. Donc je crois que ces deux paradoxes sont importants. Hein. Il y a toujours une racine narcissique, mais il ne faut pas s'en effrayer. Et il y a toujours la nécessité d'intégrer quelque chose de la souffrance dans l'amour. Si on ne veut pas l'intégrer, eh bien, on n'arrivera pas à aimer profondément. Alors voilà, le Candide et Cantique se divise en cinq poèmes. je lis dans la première colonne de gauche, là, vous voyez les versets hein, qui sont indiqués, mais les titres. La première étape, c'est le besoin pour la bien-aimée d'être rassurée. Elle a besoin d'être rassurée. On aime, pourquoi ? Ben parce que on se sent seul, on se sent en manque, donc il y a un besoin d'être rassuré. Lorsque le bien-aimé répond, alors on est tellement content qu'on veut le posséder. On a enfin la chose qu'on voulait pour se rassurer, et il y a le désir de possession. Ce désir de possession peut être partagé un moment, mais il risque d'étouffer. Donc, si on est trop dans ce désir de possession, il y a risque que ça cale. Et donc, il faut un peu desserrer cette fusion, désirée par l'un ou par l'autre, ou par les deux, et entrer dans une véritable altérité. Lorsqu'on commence à entrer dans cette altérité, à voir donc, que l'autre est différent, est vraiment différent, eh bien, c'est une chose qui est enivrante, mais c'est aussi une chose qui est inquiétante. La vraie différence de l'autre, eh bien, lorsque ça va bien, c'est merveilleux, hein, mais lorsque ça va mal, cette différence est inquiétante. Et puis alors, il y a cette quatrième étape qui est celle où, justement, cette altérité montre son aspect négatif. Déception et fuite. On va trouver dans le texte vraiment, hein, narrativement, la déception et la fuite. Et enfin, le poème va se dénouer dans une alliance avec l'unique. Alors regardez, dans la deuxième colonne, les versets qui sont marqueurs de ces étapes. Première étape. « Je suis noire et pourtant belle, » dit la bien-aimée. Et un peu plus bas, elle dit « Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Donc voilà, la bien-aimée, elle a celui que mon cœur aime, hein, mais elle n'est pas très sûre qu'elle a attiré son regard parce que je suis noire et pourtant belle, mais suis-je vraiment belle? Et ma vigne, je ne l'ai pas gardée, ça veut dire est-ce que je mérite hein, d'attirer son regard? Donc, besoin d'être rassuré sur un fond de souffrance, de solitude, besoin d'être réassuré sur sa valeur propre. On s'interroge sur sa culpabilité aussi. La bien-aimée se sent de peu de valeur, soit en elle-même, par son apparence, soit par ce qu'elle a fait. Elle craint d'être rejetée par l'autre. Elle essaie d'approcher celui que mon cœur aime, mais elle ne sait pas si elle va être acceptée. C'est pourquoi elle l'appelle et elle espère qu'il va répondre. Mais il y a là une crainte, une angoisse. Et c'est tout à fait typique. La première rencontre amoureuse consiste toujours à surmonter une peur. Il y a un livre de Descartes qui montre très bien cela, hein, qu'une relation amoureuse s'amorce toujours par un premier moment de crainte. Est-ce que si je déclare mon amour, on va se moquer de moi ou bien on va m'accepter, hein. Dans la littérature, la déclaration d'amour, eh ben, voilà, c'est quelque chose qu'il faut oser faire. Mais on risque le refus, on risque d'être humilié par un refus. Une déclaration mutuelle, mais chacun le pense, demande une certaine audace. L'audace d'entrer dans une aventure. On n'est pas sûr que ça marchera. On risque quelque chose de sa propre stabilité, de sa propre identité. On fait un pas où on s'expose à l'autre, où on se montre vulnérable dans son désir et on ne sait pas si l'autre va répondre. Mais dans le cantique, eh bien, heureusement, hein, le bien-aimé répond, il lui dit « Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle, tes yeux sont des colombes, que tu es beau, mon bien-aimé, combien délicieux. » Bon, voilà, la première déclaration mutuelle, réciproque, a réussi. Donc on a surmonté cette première étape. Mais à partir d'un moment, on est tellement content d'avoir réussi cette première étape qu'on voudrait accrocher l'autre et qu'il ne s'en aille plus et qu'il réponde à ce besoin. Alors là, dans la troisième colonne, vous avez un verset très typique de cela. « Mon bien-aimé est à moi et moi à lui. » Voilà, « Mon bien-aimé est à moi et moi à lui. » C'est le désir d'appartenance mutuelle. Mais vous voyez qu'elle commence par dire « Mon bien-aimé est à moi. » un peu plus bas dans cette colonne 3, vous voyez que c'est l'inverse. Elle dira « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Elle a inversé les termes. Donc, il y a là une nuance, hein. Il y a un chiasme, comme on dit. Hein. Elle ne commence pas par elle. Elle dit « J'appartiens à mon bien-aimé ». Ce n'est pas mon bien-aimé qui m'appartient. Donc voilà, dans cette, après cette première reconnaissance qui répond à une angoisse sur la beauté, sur la faute, la bien-aimée s'enhardit, hein, et elle apparaît alors la tentation de posséder l'autre, de ne plus jamais perdre cette assurance qu'on cherchait et qu'on a trouvée, qui a été donnée. Et on voudrait mettre l'autre sous contrôle pour qu'il répète sans cesse cette reconnaissance première, mais ça risque de devenir un peu mécanique, hein, si on veut que ça se répète sans plus. Il y a le risque d'étouffer l'autre. La bien-aimée désire le posséder, mais elle risque alors de l'étouffer. Elle voudrait exercer une emprise pour se réassurer au fond d'elle-même, et cette réassurance montre son manque de confiance, en elle-même et son manque de confiance dans l'autre. Donc, essayer de mettre la main sur l'autre, c'est un manque de confiance, hein, un manque de confiance mutuelle. C'est une tentation normale, dirais-je, mais il faut savoir ce qu'elle cache. Eh bien, c'est un manque de confiance. Il faut donc approfondir la confiance mutuelle pour dépasser cette étape. Il y a bien sûr le désir de la fusion, où l'autre est avalé et où soi-même on disparaît dans l'autre, mais ça ne peut pas durer. Alors, lorsque cette étreinte se desserre un peu et qu'on découvre la différence de l'autre, alors les charmes particuliers de l'autre commencent à ensorceler, à séduire, et on est tout content de voir que l'autre est différent parce qu'il y a un don mutuel. Ces différences permettent, cette altérité chatoyante permet un échange plein de plaisir. Il y a une fascination. L'autre est un peu inconnaissable dans ses charmes, mais il accepte de partager parce qu'il y a une certaine confiance. Par exemple, la bien-aimée est décrite comme un jardin clos. Ma bien-aimée est un jardin clos. Il y a là une source scellée, quelque chose qui est inconnaissable. Et en même temps, le bien-aimé peut pénétrer dans ce jardin. Donc il y a une confiance, un partage. Alors Nicole Jamais remarque que cette étape numéro 3, le troisième poème, commence par une phrase qui est presque reprise tout au début du poème 5, mais d'une manière différente. Qu'est-ce que cela qui monte du désert ? Qu'est-ce que cela qui monte du désert ? Et à l'étape 5, c'est « Qui est celle-ci qui monte du désert ?» Donc là, on pose une question sur l'objet, et ensuite sur la personne. Alors je continue un petit peu les versets. 3-6 dit ceci. Qu'est-ce qui monte du désert comme une colonne de fumée, comme une vapeur de myrrhe et d'encens et de tous les parfums exotiques ? Voilà, le bien-aimé s'interroge sur la bien-aimée comme un peu comme une chose, comme dans sa matérialité, dans ses charmes, dans ses parfums. Tandis que dans le cinquième poème, il dit « Qui est celle-ci qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé ? » Ce n'est pas le bien-aimé qui dit ça, c'est le cœur, hein. Mais qui est celle-ci non plus ? Qu'est-ce que celle-ci, hein ? Sa description extérieure, matérielle, mais qui est celle-ci comme personne ? Et elle est décrite non pas ayant des parfums, etc., mais elle est appuyée sur son bien-aimé. Donc elle est dans une relation. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une étape qui a été franchie. Le quatrième poème est très intéressant. Et il commence comme ceci, vous le voyez dans la colonne 2, là. « Je dors, mais mon cœur veille, dit-elle. » Elle est sur son lit, et elle sommeille, elle rêve à son bien-aimé. Et puis tout à coup, j'entends mon bien-aimé qui frappe. « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. » Mais elle ne veut pas ouvrir. Elle dit « Non, non, je suis déjà couchée, je me suis lavée, j'ai mis ma tunique, je vais salir mes pieds, etc. » Elle trouve des excuses et elle ne veut pas ouvrir. Curieux, très curieux. Elle refuse. Alors lui fait encore une petite tentative et puis il s'en va. Et à ce moment-là, alors elle se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Elle ouvre la porte, elle court après, mais il a disparu. Il a disparu. Alors ces versets sont très beaux. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais tournant le dos, il avait disparu. Alors cette étape pour l'exégète là, qui est Nicole Jamais, est très intéressante. Voilà, il y a le bien-aimé qui vient la solliciter, et curieusement, pour une raison qui n'est pas expliquée, enfin qui est expliquée par des raisons bizarres, hein, elle a déjà fermé sa porte, elle a déjà mis sa tunique, elle a déjà lavé ses pieds, donc elle ne veut plus aller dehors, eh bien, elle refuse, elle n'est pas disponible. Et le bien-aimé, après une toute petite tentative supplémentaire, il s'en va. Et à ce moment-là, elle veut sortir pour courir après lui, mais enfin. Là, il y a une déception et une fuite. Il y a un moment, voilà, il y avait le beau moment de la fusion, le beau moment de l'échange, de l'altérité enivrante, etc. Et ici, il y a comme une sorte de jeu de cache-cache capricieux, où chacun essaye quoi ? Essaye peut-être de voir si l'autre tient à lui, et jusqu'où on peut le contrôler, le dominer, hein, le faire courir derrière moi, hein, pour voir si tu m'attrapes, etc. Chacun essaie de mesurer le pouvoir qu'il a sur l'autre, de le décevoir, ou au contraire de le mettre en mouvement. Le bien-aimé s'enfuit, peut-être parce qu'il est déçu, mais aussi peut-être pour qu'elle court derrière lui, hein. Elle se refuse pour qu'il insiste, mais il ne veut pas insister davantage, et il joue l'autre jeu. Il y a là comme un petit bras de fer pour savoir qui a le plus de pouvoir sur l'autre, hein, qui a le plus de domination sur les sentiments de l'autre. Transparaît ici non plus le désir d'avaler l'autre, mais le désir de le dominer. Et c'est quelque chose qui est classique dans l'aventure de l'amour, hein, à un moment donné. Soit on est un peu fatigué, on n'est pas disponible, mais enfin, on pourrait faire un petit effort, mais on ne le fait pas. Et parfois, on se demande d'ailleurs pourquoi soi-même. Hein, on découvre la réaction de l'autre, mais parfois, on s'étonne de sa propre réaction. Parce que tout ça se fait assez vite, assez spontanément. On ne réfléchit pas toujours à ses propres réactions. Et les deux se découvrent eux-mêmes. En même temps qu'ils se découvrent à l'autre, ils se découvrent eux-mêmes dans leur incapacité de se donner entièrement, dans leur désir peut-être même de se refuser quelque part, en partie en tout cas. Et naît de là une espèce de culpabilité. On souffre de l'autre, mais on souffre aussi de soi. Parce que la bien-aimée dit, mais enfin, qu'ai-je fait en ne voulant pas ouvrir la porte, hein ? Je vais réparer, mais trop tard. On souffre à cause de l'autre, on souffre à cause de soi-même. On est inquiet pour savoir si la relation pourra se renouer. Angoisse d'abandon, auto-accusation, culpabilité, emprise déjouée. On se rend compte que rien n'est acquis dans la durée. J'entends mon bien-aimé qui frappe. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais tournant le dos, il avait disparu. Voilà, ça c'est l'étape... Une étape un peu dangereuse. Ici, on pourrait décider la rupture pour éviter la souffrance. Hein, Dominique a donné le cas là, de celle qui portait le nom de Vanessa, qui ne voulait pas souffrir, donc qui ne voulait pas s'attacher. Ici, ben voilà, il y a la question, jusqu'où ira l'attachement ? Est-ce qu'il ira au-delà de cette déception, au-delà de nos limites et de nos égoïsmes, évidemment, réciproques aussi ? Et il y a un moment de souffrance. La bonne réaction est sans doute de ne pas vouloir éliminer l'autre, pour la raison qu'on ne peut pas le contrôler, mais au contraire de rester présent, d'accepter sa présence dans cette absence, sa présence en soi, dans son absence matérielle, une absence pénible que les deux d'ailleurs peuvent ressentir comme cela, mais qui va faire le premier pas, hein, qui va renouer la relation au-delà des caprices, négatif, mais aussi au-delà des irréductibilités qui sont positives. On est comme ça, hein? On est comme ça, il faut accepter d'être comme cela et que l'autre soit comme cela. Est-ce qu'on va apprendre à se connaître et à connaître l'autre comme partiellement imprévisible, inconnaissable, et le laisser libre et l'accueillir malgré tout dans ce mystère de nos libertés, qui se repousse tout en se cherchant. Où est notre vrai libre arbitre, notre vraie liberté? Vous vous souvenez de l'expérience que vous racontez, Dominique, la fois passée, de Lita Basset, qui, avec son mari, avait perdu leur fils par suicide, et elle disait, « Voilà, je ne peux pas comprendre ta douleur de père, tu ne peux pas comprendre ma douleur de mère, mais est-ce que cette incompréhension va faire que on va se séparer, ou bien on va rester ensemble et endurer ensemble cette certaine solitude douloureuse, mais ensemble quand même. Parfois, il faut des années pour que certaines retrouvailles se fassent au-delà de tous ces quant à soi. Le cinquième poème, c'est le surpassement de cela. Qui est celle-ci? Donc cette fois-ci, ce n'est pas qu'est-elle dans ses formes extérieures, dans ses parfums, dans sa séduction, mais qui est-elle au plus profond d'elle-même? Elle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé. Et alors au poème précédent, je l'ai mis dans la colonne de gauche tout à fait, le cœur posait la question à la bien-aimée, mais qu'a donc ton bien-aimé de plus que les autres? Hein, toi la plus belle des femmes, toi tu es la plus belle, et ton bien-aimé, ben, il est un quelconque. Hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Et en effet, dans cette dispute, dans cette déception, on peut se poser la question, ben, il n'a finalement rien de plus que les autres. Et en fait, oui, ben, tout ce que répond la bien-aimée pour décrire son bien-aimé, on peut le dire de à peu près tout le monde, quoi. Hein? Alors, ben, il est interchangeable, quoi. Hein? Est-ce que, bon, ben, puisqu'elle l'a perdu, ben, hein, perdu, disent de retrouver, hein, pas de problème, puisqu'il n'a rien de plus que les autres. Mais en même temps, quand elle le décrit, on sent que ce n'est pas justement la banalisation hein, de ses caractères, c'est au contraire le choix. Elle a choisi ce caractère-là, qui est peut-être commun à d'autres, mais elle l'a choisi parce que ce sont les siens. C'est mon choix, je veux en faire l'unique. Lui qui est un particulier, qui a peut-être pas tellement plus que les autres, qui est limité, qui est peut-être fautif, ou bien elle est fautive, etc. Mais par mon choix, je veux en faire l'unique de ma vie. C'est un choix. Et on le trouve dans le verset 8-6, qui n'est pas ici sous vos yeux. « Pose-moi comme un sceau sur mon cœur, comme un sceau sur mon bras. » Alors ça, évidemment, c'est d'être marqué par l'autre, de marquer l'autre dans cet amour de mutualité. C'est une alliance, non pas dans la fusion, non pas dans la séparation, mais c'est faire une alliance. Alors, dans les autres colonnes, vous pouvez voir d'autres indications. Donc, la colonne 1, 2, 3, elle dit « Mon bien-aimé est à moi et moi à lui », puis elle inverse. « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi », elle inverse, et après elle dit « Je suis à mon bien-aimé et vers moi se porte son désir ». Encore une autre formule. Et le bien-aimé, selon Nicole Jamais, est sans cesse respectueux du cheminement de la bien-aimée, parce qu'il répète plusieurs fois « N'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour, ne la réveillez pas, hein, faut pas la brusquer ». Lui, il dit ça plusieurs fois d'elle. Il ne faut pas réveiller mon amour jusqu'à ce qu'elle le veuille. Hein, jusqu'à ce qu'elle le veuille. Et il dit ça encore en 8-4. N'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour. Mais au verset suivant, il décide de la réveiller. Hein. Sous le pommier, je t'ai réveillé. La même où ta mère t'a conçu. Alors donc, à un moment donné, il estime voilà, hein, que le lien est suffisamment fort pour que il respecte son cheminement et en même temps il peut prendre l'initiative parce que l'alliance a été faite. Et on remarque que sous le pommier je t'ai réveillé la même où ta mère te conçut. Alors vous retrouvez ça aussi à la colonne suivante. Unique est ma colombe, ma parfaite, elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui l'enfanta. Alors très curieusement, la mère hein, apparaît comme celle qui a donné naissance à la bien-aimée. Plusieurs fois. Et pour Nicole Jamais, cela signifie que la bien-aimée ne s'est pas créée elle-même. Elle n'est pas tombée du ciel. Elle est dans une histoire d'amour, déjà. Et l'amour de mutualité est d'autant plus possible et plus fort que l'altérité, non pas seulement entre les deux, hein, mais avec les générations, et finalement avec la transcendance et avec Dieu lui-même, est reconnue. Quand les amoureux estiment qu'ils sont nés d'une coquille Saint-Jacques quelque part, et puis que voilà, maintenant ils vont tout inventer, tout le monde à partir de rien, eh bien il y a un risque justement de ne pas s'inscrire dans le réalisme d'une aventure, d'une découverte patiente de l'autre. Donc voilà. Et je termine en faisant un peu la critique de cette formule « ne faire qu'un ». Souvent, hein, on dit, mais d'ailleurs c'est écrit dans la Bible, hein, « ne faire qu'un », c'est la formule phare, hein, de l'amour parfait, « ne faire qu'un ». C'est une formule ambiguë, sans doute. Elle semble pointer vers la fusion. Il faut l'ouvrir pour lui donner un sens trinitaire, je pense. La fusion, ne faire qu'un, c'est une fusion qui risque d'être dévoratrice, et tout en étant dévoratrice, elle ne remplit pas. La mutualité essaie de surmonter l'étape de la déception, de la fuite, par un décentrement de soi, par un renoncement, par une kénose, par une ouverture à l'autre. On accueille l'autre en soi, tel qu'il est. Mais cet effort de kénose réciproque serait un pur vide s'il n'en jaillissait quelque chose de nouveau, quelque chose de plus, qui est comme une résurrection, quelque chose qui est comme un, comme l'Esprit Saint dans la Trinité. Entre le Père et le Fils, leur amour même, hein, de leur relation, naît cette personne qu'est l'Esprit Saint lui-même. Lorsqu'on se donne l'un à l'autre, il y a un renoncement à soi et il y a comme un retour à soi dans cette troisième personne qui est notre union, notre amour, l'Esprit Saint. Où chacun reste soi en étant différent de l'autre, séparé de l'autre sans être séparé, vulnérable à l'autre et en même temps fort dans l'Esprit qui unit. Voilà, il y aura encore bien des choses à dire, mais je m'arrête ici. Et la suite pour une prochaine fois.